kelen, tontot!
Le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Meload. Nous sommes le 4 juin et l'atmosphère est lourde, le temps est menaçant. Ça tombe bien, le tonnerre va gronder durant une heure dans vos radios au son des nouveaux albums parus aujourd'hui pour la grande majorité, sauf un qui est paru vendredi dernier. Au programme de cette édition, nous aurons donc du thrash, du death, du hard rock bluesy, du metalcore et du punk hardcore. Et puis c'est bien évidemment sur un air de reprise que l'on refermera cette émission avec une rubrique sortez cover qui va nous faire voyager à la fin des années 80, enfin entre la fin des années 80 et ce printemps 2021. Mais pour le moment, il est temps de lancer les hostilités et on va commencer par du trash US puisque aujourd'hui sort Blood in the Water, le nouvel album de Flotsam and Jetsam, un groupe qui sévit depuis maintenant 40 ans mais qui malheureusement a toujours évolué dans l'ombre de ses petits camarades du Big Four of Trash et qui du coup n'a selon moi jamais eu le succès et la renommée qu'il aurait pourtant mérité. C'est donc à Phoenix, dans l'Arizona, que démarre en 1980 la carrière de Flotsam and Jetsam, dont le line-up sera complété quelques temps après sa formation par le chanteur Eric Knudson, qui est le dernier membre historique encore présent à ce jour, et par un certain Jason Newsted à la basse, qui quittera finalement Flotsam and Jetsam en 86 lorsqu'il sera recruté par Metallica pour remplacer le regretté Cliff Burton. Alors malgré des débuts prometteurs avec deux albums marquants qui sont parus tous les deux en 86, d'abord Doomsday Forms Deceiver qui sera le premier disque de l'histoire du magazine Kerrang à obtenir 6 étoiles, et puis ensuite No Place for Disgrace, deuxième album du groupe que beaucoup de fans de trash considèrent comme étant une des pièces maîtresses du genre, et bien Flotsam and Jetsam n'arrivera pas à s'imposer en dehors de la scène underground, malgré une signature quand même avec le label MCA, sur lequel sort en 90 l'album When the Storms Come Down, dans lequel le combo avait placé énormément d'espoir. Malheureusement, la production elle sera très médiocre de ce troisième album et il sera loin de faire l'unanimité. On sera très très loin du succès escompté, mais bon, ma foi, face à cet échec, Flotsam et Jetsam va pas se laisser abattre et va même décider de revoir sa copie en effectuant quelques changements de style, quelques changements d'écriture, comme en atteste par exemple l'album Quattro, qui est paru en 92, qui va connaître un succès un petit peu plus important. Alors depuis, le combo de Phoenix continue à tracer sa route, et même s'il bénéficie toujours pas de la renommée qu'il mériterait, eh bien les connaisseurs le savent, Flotsam et Jetsam fait partie des références incontournables en matière de power thrash metal, et leur album éponyme paru en 2016 et puis l'excellent The End of Chaos paru en 2019 en sont deux très belles preuves. Et la bonne nouvelle dans tout ça, eh bien, c'est que Blood in the Water, qui est paru aujourd'hui, il nous est présenté par le groupe comme étant un The End of Chaos sous stéroïdes, ce qui résume finalement assez bien ce 14e album sur lequel on découvre une nouvelle recrue en la personne du bassiste Bill Bodily, un musicien talentueux et investi qui s'impose d'ores et déjà comme un véritable atout pour Flotsam and Jetsam, qui du coup reprend encore de la vigueur. Mixé et masterisé, tout comme son prédécesseur, par le magicien danois Jakob Hansen, Blood in the Water, c'est un album à la production sont puissantes et modernes, sans être artificielles. On constate à travers les 12 compos que contient le disque que Flotsam and Jetsam a beau avoir 40 ans, il a rien perdu de sa rage, ni en matière de heavy trash, ni en matière de trash heavy, hein, c'est comme on veut. Il est même au sommet de son art. Alors, c'est un album qui est soutenu par une section rythmique en béton armé. Il y a aussi un duo de guitaristes composé de Michael Gilbert et Steve Conley qui nous envoie du riff à tout va. Quant à Eric Knusson au chant, eh bien là encore, c'est totalement maîtrisé, c'est à la fois clair et rageur. Blood in the Water, c'est un album extrêmement réussi qui s'inscrit fièrement dans la lignée de ses deux glorieux prédécesseurs. Nos vétérans du trash donnent décidément encore une fois une bonne leçon aux jeunes formations. On écoute Flotsam and Jetsam avec le morceau titre Blood in the Water. Blood in the Water du groupe Heavy Trash, Flotsam et Jetsam, qui fête cette année ses 40 ans de carrière et qui nous offre aujourd'hui ce magnifique 14e album intitulé lui aussi Blood in the Water. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Bike FM. Je suis un petit peu éparpillée parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a une toute nouvelle table de mixage. C'est une première pour moi et j'essaye tant bien que mal en même temps que je vous parle de régler au mieux les micros en essayant de pas partir en distorsion et en essayant de faire en sorte que vous ayez quand même assez de son à la sortie. Donc revenons-en à nos moutons. Donc voilà, vous écoutez l'émission Check Me Load, vous êtes sur Bike FM et puis on va rester aux États-Unis mais on va quitter l'univers du trash pour celui du stoner rock. En effet, ce vendredi 4 juin sort le 5e album de Red Fangs qui a pour titre A Rose. Alors, que vous dire de Red Fangs ? C'est un groupe qui est originaire de Portland dans l'Oregon qui a fait ses débuts en 2005 et depuis cette époque, son line-up se compose de Brian Giles au chant à la guitare, de Aaron Beam au chant à la basse, de David Sullivan à la guitare et de John Sherman à la batterie. Un premier album paru en 2009 qui compilait deux EP sortis précédemment, Red Fangs va décrocher un contrat avec le label Relapse Records sur lequel va sortir Murder the Mountains en 2011, qui va permettre au groupe de se faire connaître d'un public beaucoup plus large, puisque ce deuxième album va lui donner l'occasion de tourner intensément et de fouler la scène de pas mal de gros festivals comme le Wacken, le Soundwave ou le Hellfest. Red Fangs va s'imposer parmi les principaux espoirs de la scène Sludge et Stoner, et l'album Walls of Leeches, qui paraît en 2013, ne va faire que confirmer cet énorme potentiel. Pour certains, le combo de Portland serait même le plus digne héritier des pionniers de Black Sabbath. Et puis enfin en 2016, Red Fangs va compléter sa discographie quasi irréprochable avec l'excellent Only Ghost qui avait fortement marqué, mais depuis plus rien, il s'est écoulé 5 ans. Alors le groupe n'a pas rien fait puisque l'album qui sort aujourd'hui, il était prêt déjà depuis un moment. Malheureusement, comme vous le savez, il y a le Covid qui est venu foutre un petit peu le bazar. Du coup, après ces 5 ans de silence radio, les revoici avec A Rose qui a été enregistré au studio Halfing à Portland avec Chris Funk qui est le collaborateur de longue date de Red Fangs qui avait produit les albums Murder the Mountains et Walls and Leeches et que le groupe apprécie particulièrement pour sa faculté à expérimenter sans cesse et à créer des atmosphères étranges qui sont d'ailleurs extrêmement palpables tout au long de cet album qui incarne finalement parfaitement la liberté créative qui anime Red Fangs depuis plus de 15 ans. A Rose, c'est un album qui est en effet malicieux, un album qui regorge d'idées et de nuances. Le stoner grudge sludge cradingue de Red Fangs, il zigzague assez habilement entre la lourdeur de Crowbar, le sens de la mélodie de Mastodon, tout en proposant un son extrêmement organique à la baronesse. Et puis, les titres énergiques et frontaux d'A Rose permettent d'apprécier les titres indépendamment les uns des autres, sachez que le disque est quand même conçu à l'ancienne, c'est-à-dire comme à l'époque où un album constituait un ensemble qu'il fallait écouter dans son intégralité, de la première à la dernière note pour en apprécier les contours et les subtilités. Maintenant, à vous de choisir quelle manière d'écouter vous convient le mieux, si vous préférez picorer dans les titres ou écouter l'album dans son ensemble. Pour l'heure, nous, on va juste écouter un extrait pour se donner un petit peu une idée. Voici donc Red Fangs avec le morceau-titre « A Rose ».
Time to find this guy.
Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM avec à l'instant Arrows du groupe Stoner Sludge Red Fang, un titre extrait de l'album du même nom paru aujourd'hui. Nous allons maintenant nous intéresser à deux guitaristes virtuoses, on peut tous les deux les considérer virtuoses, qui sortent chacun un nouvel album solo aujourd'hui. Le premier, c'est Billy F. Gibbons, l'emblématique guitariste barbu de ZZ Top, qui sort donc ce jour Hardware, sa troisième production en solo. Aujourd'hui âgé de 71 ans, Gibbons a une très longue carrière derrière lui, une carrière qui débute à la fin des années 60 à Houston, au Texas, lorsqu'il fonde les Moving Sidewalls, un groupe qui va devenir à l'époque une gloire locale, mais c'est bien sûr en compagnie de Frank Bird et Dusty Hill, ses compères de ZZ Top, que la renommée de Billy Gibbons va bientôt dépasser les frontières du Texas et devenir internationale. Le trio ZZ Top se forme en 69 et connaît ses premiers gros succès dès les années 70, avec notamment l'album Tres Hombres, qui est paru en 73, sur lequel on trouve le cultissime Lagrange. Et puis dans les années 80, ZZ Top va enchaîner les disques de platine et de diamant. L'album Eliminator paru en 83 avec son mélange de hard rock typique de l'époque et de blues rock va connaître un succès commercial gigantesque et va devenir lui aussi totalement culte. À ce jour, après plus de 50 ans de carrière quasi ininterrompue, ZZ Top a vendu quand même plus de 70 millions d'albums à travers la planète et fait partie intégrante de la légende du rock. Il a d'ailleurs été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2014. Alors concernant maintenant ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la carrière solo de Billy Gibbons, alors outre ses apparitions en tant qu'acteur dans des séries TV, vous l'avez peut-être aperçu, il a sorti en 2015 un premier album qui s'intitulait Perfecta Mundo, alors dans lequel il mélangeait son blues rock habituel avec des sonorités afro-cubaines. C'était assez curieux mais assez réussi. Et puis en 2018, il avait sorti The Big Bad Blues, alors cette fois c'était un album purement blues rock qui lui aussi avait connu un accueil extrêmement positif. Avec Hardware donc paru aujourd'hui, là il n'y a pas de surprise, hein. Billy Gibbons il joue sur son terrain favori, il nous livre un troisième album explosif qui retourne aux sources du blues rock, ce blues rock qui lui est cher. D'ailleurs notre légendeur chanteur-guitariste n'a pas eu à s'aventurer bien loin pour trouver l'inspiration puisqu'il n'a eu qu'à s'imprégner du désert californien, des sables mouvants et des serpents à sonnette qui entouraient le studio d'enregistrement Escape Studio où Hardware a été mis en boîte afin de créer ce son si brut, si particulier et si reconnaissable, qui rappelle d'ailleurs très souvent l'univers musical de ZZ Top. Enregistré avec la même équipe que celle présente sur The Big Bad Blues, dans laquelle on trouve notamment Matt Sorum, batteur de Guns N' Roses, Hardware a été pour moi une très belle surprise, hein, puisque j'ai trouvé que les 11 compos originales que propose le disque, elles étaient très agréables. Il y a aussi une reprise de la chanson Hey Baby, Que Paso des Texas Tornadoes, que je connaissais pas, qui a été une découverte intéressante. Donc plutôt un très très bon avis sur ce nouvel album de Billy Gibbons, dont voici un extrait avec le titre My Lucky Card.
You know that girl beats my mind.
Le légendaire chanteur-guitariste de ZZ Top, Billy Gibbons sur Bike FM avec le titre My Lucky Card, extrait de Hardware, son nouvel album solo paru aujourd'hui. Vous écoutez l'émission Check Me Lot qui, c'est un pur hasard, je vous jure, propose ce 4 juin une programmation composée de 66,6% d'artistes et de groupes américains. Si 66,6%, si ça, c'est pas un signe. Donc voilà, ceci étant dit, on va d'ailleurs continuer notre voyage à travers les États-Unis, puisque par exemple, l'artiste dont je vais vous parler maintenant, il est né dans l'Illinois, il a grandi près de Pittsburgh en Pennsylvanie, puis il s'est installé à Los Angeles pour faire carrière. C'est du guitariste Paul Gilbert dont je vous parle, puisqu'il sort ce jour son 16e album solo intitulé Werewolf of Portland. J'imagine que le titre de l'album fait référence, au moins une petite référence, au moins un clin d'œil, à la chanson de Warren Zevon, Werewolf of London. En fait, j'en sais rien, je m'avance peut-être un peu vite. Donc du coup, avant d'entrer un peu plus dans les détails de ce nouvel album, on va faire un petit focus sur ce virtuose de la guitare qui lui aussi a déjà une sacrée carrière derrière lui. Une carrière qui commence réellement, on va dire, à Los Angeles au milieu des années 80, lorsqu'il va former avec le bassiste John Alderate le groupe Racer X. Alors à l'époque, la guerre fait rage entre les Guitar Heroes, c'est à celui qui va shredder le plus vite, et dans cette course à la vitesse, eh bien Paul Gilbert notamment, il livre bataille avec un certain Yngwie Malmsteen. Et pour s'en rendre compte, eh ben, il suffit d'écouter les deux premiers albums de Racer X, donc Street Lethal paru en 86 et Second Hit paru en 87, et puis ensuite d'écouter les premiers albums de Malmsteen qui sont sortis à la même époque, et là vous verrez que le constat est flagrant. En tout, Paul Gilbert, il va sortir 5 albums studio avec Racer X, mais tout ça, ça va constituer qu'une toute petite partie de sa longue discographie, puisque notre guitariste hyperactif va également s'illustrer avec une autre formation marquante. En 1988, Paul Gilbert s'associe en effet au bassiste Billy Sheehan, au batteur Pat Torpey et au chanteur Eric Martin pour former le groupe de hard rock glam Mr. Big, alors là, avec lequel il va connaître un succès commercial beaucoup plus important. 3 des 9 albums studio du groupe vont être certifiés disques de platine, comme ça va être le cas par exemple de Lean Into In, le deuxième album de Mr. Big qui demeure à ce jour son plus gros succès à l'international. Enfin, et cette partie-là elle est pas négligeable non plus, depuis la fin des années 90, Paul Gilbert, il mène également une carrière solo qui est en quelque sorte son aire de jeu, hein, puisque c'est à travers cette carrière-là que Paul Gilbert laisse exploser sa créativité, sa virtuosité et puis son grain de folie, sans oublier aussi son éclectisme en matière d'influence. D'ailleurs, cette discographie solo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une autre preuve de l'hyperactivité artistique de Paul Gilbert, puisqu'elle s'agrandit au rythme effréné d'un nouvel album tous les 1 ou 2 ans, et avec ce 16e album solo qui est Werewolf of Portland, eh bien Paul Gilbert s'offre même le luxe de relever 2 nouveaux défis. Le premier, il lui a quand même été un peu imposé par le confinement, c'est d'avoir dû enregistrer l'intégralité des instruments qu'on entend sur l'album, puisqu'il n'a pas pu aller en studio avec des musiciens. Et puis le second défi, c'est d'avoir donné la parole à sa guitare. Puisque figurez-vous que si l'album est instrumental, eh bien Paul Gilbert a réellement écrit des textes de chansons pour son instrument fétiche, des textes qui sont retranscrits dans le livret qui accompagne le CD, comme on le fait généralement avec des paroles de chansons. Alors si certains vont reprocher quand même au guitariste son étalage de technique, hein, parce que faut quand même reconnaître que ça joue vite, y a de la gamme, il y a du riff, enfin voilà, c'est un exercice guitaristique à part entière. Faut quand même reconnaître aussi que Paul Gilbert, c'est un immense guitariste, et que Werewolf of Portland, c'est un album qui est quand même assez fun, qui est sincère, qui est plein de fraîcheur. Après, je sais pas, étant guitariste, j'apprécie en général les albums de guitaristes. Après, je sais pas si les gens qui pratiquent pas l'instrument vont apprécier autant. Moi, je pense que quand même, vous pouvez apprécier quelques-uns des morceaux parce que c'est plutôt sympa. Alors, si vous êtes par contre un amateur de Guitar Heroes, allez absolument jeter une oreille, voire 2, à ce nouveau Paul Gilbert, dont voici un extrait intitulé « A Thunderous Ovation Shook the Columns ». A Thunderous Ovation Shook the Columns de Paul Gilbert, l'homme qui fait chanter les guitares et qui sort aujourd'hui son nouvel album solo intitulé Werewolves of Portland. Vous écoutez l'émission de Check Milwaukee sur Back FM et voici dans un tout autre style encore un album qui paraît ce 4 juin. Il s'agit de Baptize, le nouvel album des Californiens d'Atreyu, dont on avait écouté un premier single en avril dernier. J'avais dit que j'en reparlerai le jour venu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Considéré comme un pionnier de la scène metalcore américaine, Atreyu voit le jour il y a déjà un bon moment, il y a 26 ans, en 95. C'est dans le comté d'Orange que ce groupe est créé et qu'il est notamment autour du guitariste Dan Jacobs. Notons au passage pour la petite touche de pop culture que le groupe tient bien évidemment son nom d'un personnage du livre-film L'Histoire sans fin que les gosses qui ont grandi dans les années 80-90 connaissent par cœur. Donc j'imagine que les membres d'Atreyu ont grandi à cette époque-là. En tout cas, toujours est-il que le metalcore aux accents alternatifs et post-hardcore du groupe, eh bien, on va le découvrir en 2002 lorsque va sortir leur premier album qui s'appelle Suicide Notes and Butterfly Kisses. Avec la sortie de Baptize, la discographie du combo compte désormais 8 albums. Et si vous avez envie d'y jeter une oreille, hein, cette discographie, pour le découvrir, l'univers d'Atreyu, moi je vous conseille tout particulièrement The Curse qui est paru en 2004 et puis surtout Lead Sale Paper Encore qui est paru en 2007 qui est, me semble-t-il, son plus gros succès commercial jusqu'à présent. Mais revenons à Baptize, puisque c'est l'actualité du groupe. Alors, Atreyu marque un tout nouveau chapitre dans sa carrière, puisque après le départ l'an dernier du chanteur historique Alex Varkadza, eh bien le micro il est passé dans les mains de Brandon Saylor, qui était jusqu'alors derrière la batterie, qui assurait quand même les chœurs, hein, mais voilà, il était principalement batteur, et par conséquent, il a dû confier ses baguettes à un nouveau batteur qui s'appelle Kyle Rosa. Un remaniement qui, malgré tout, devrait pas trop dépayser les fans du groupe, puisque l'album qui a été produit par John Feldmann, qui est un collaborateur et ami de longue date du groupe, eh bien, il reprend là où In Awake, paru en 2018, s'était arrêté. Alors, même si dans l'ensemble, Baptize s'avère plus lourd que son prédécesseur, Atreyu reste fidèle à ses racines et à son identité. Les 15 titres de l'album sont inspirés, percutants, variés. Ils sont également imprégnés d'une certaine urgence, cette urgence qui fait partie de l'ADN du groupe depuis toujours. Je trouve que Atreyu navigue ici avec la plus grande aisance entre mélodie et brutalité. Alors Baptize, c'est un album qui est très réussi, je trouve, et pour rien gâcher, eh bien, le groupe nous offre 3 featuring. Il y en a un avec Jacoby Shaddix de Papa Roach, un avec Matt Afey de Trivium, et puis un autre avec Travis Barker de Blink-182. On écoute tout de suite un extrait de ce nouvel opus d'Atreyu. Je vous rappelle qu'il s'intitule Baptize et le titre que je vous propose d'entendre maintenant, c'est Save Us. Can you see the smoke rising from the bodies of the dead? Tell me, are you tired of the loss? Lady, can you feel your fucking soul? Lady, carry the fire. There's darkness in our soul if we don't burn. Ending, but they're pretending that everything is gonna be alright. These are your last days now. Will you stay down or will you rise up? Silent. Riot! Riot! l'aurez compris, le titre que vous venez d'écouter s'appelle Save Us. C'était le groupe Atreyu sur Back FM dans l'émission Check Melod. Un titre qui est bien évidemment extrait de l'album Batailles paru aujourd'hui. On va quitter le soleil de la Californie et on va prendre la direction de Chicago, ville connue pour être un des berceaux de la scène punk hardcore. Elle a d'ailleurs vu naître il y a un petit peu plus de 20 ans le groupe Rise Against qui sort ce 4 juin son 9e album intitulé Nowhere Generation. Mené depuis toujours par le chanteur-guitariste Tim McIlrath, Rise Against est un quatuor donc qui a été formé en 99, qui pratique un punk hardcore mélodique et engagé, inspiré de formations emblématiques telles que les Dead Kennedys, Refused, Bad Religion, Black Flag ou encore Minor Threat. Fervent défenseur de l'écologie et de la cause animale, le groupe Rise Against n'hésite pas à prendre également régulièrement position sur des sujets sociétaux ou politiques. D'ailleurs, lors de l'élection présidentielle de 2008, le groupe a clairement affiché son soutien envers Barack Obama. D'abord signé chez Fat Records, le label fondé par le chanteur de NoFX sur lequel sont sortis ses premiers albums, Rise Against a ensuite rejoint la major Geffen Records et va connaître à partir de là ses premiers gros succès commerciaux. D'ailleurs, les albums Siren Songs of the Counterculture paru en 2004, The Suffer and the Witness paru en 2006, Appeal to Reason paru en 2008 et Endgame paru en 2011 sont tous les quatre certifiés disques d'or et de platine dans plusieurs pays et contiennent d'ailleurs la plupart des titres emblématiques du combo, des titres comme Prayer of the Refugee, Reeducation Through Labor ou encore Savior qui est en quelque sorte le tube de Rise Against. Avec Nowhere Generation, eh bien Rise Against, dont les membres sont maintenant tous quadragénaires, s'adresse à la jeune génération, celle qu'on appelle la génération Z, pour lui adresser un message d'espoir concernant son avenir. En s'attaquant, comme d'habitude, à des problèmes sociétaux, environnementaux que peut connaître l'Amérique actuelle, Rise Against bien nous montre qu'au-delà de la promesse du rêve américain, il y a une réalité du rêve américain, mais que ce n'est pas parce que le futur paraît sombre qu'il le sera, parce que rien n'est écrit à l'avance. C'est donc désormais à la nouvelle génération de construire un avenir meilleur, plus solidaire et plus égalitaire. C'est un petit peu ça qu'on trouve comme discours dans cet album. Alors, musicalement parlant, ce nouveau brûlot embrasse tout sur son passé, poussé par un punk rock agressif, énergique, qui mêle habilement gros riffs et refrains mélodiques. Et si le groupe ne renie à aucun moment son identité punk, eh bien il revendique ici des grosses influences rock'n'roll qui s'intègrent parfaitement à son univers. Soulignons enfin la très belle production qui est signée d'une équipe composée de Jason Livermore, Andrew Berlin, Chris Beeble et Bill Stevenson, qui est un collaborateur et ami de longue date du combo, qui est également connu pour son travail avec Black Flag ou avec The Descendant. Voici tout de suite Rise Against avec le titre The Numbers. C'est le morceau qui ouvre cet album intitulé Nowhere Generation. We'll be right back.
now. Textbook cases, we all fit the profile. Mass surveillance, we open the door. Prey on the fears, blurred lines of right and wrong. Spread up till we can fall down. And at this velocity, one wrong move and we go down. Brace for the reckoning. But they have the power, but we have the numbers now. It's all just a constant illusion of control.
Do these reins feel tight enough? Will you gallop when you're kicked? Or throw the rider off? Are you the willing and the able? Are you spoken for? Test and serve, but you have hope. But to the old gives out lesson. Fuck what you call normal. This pressure to conform. It's your trail to blaze, or your bridge to burn. Your bridge to burn. Yeah, they have the power, and we have the numbers now. It's all just a
le punk hardcore made in Chicago du groupe Rise Against dans l'émission Check Me Load. On vient d'écouter le titre The Numbers, extrait de l'album Nowhere Generation, tout frais paru de ce jour. Et nous allons cette fois, ça y est, quitter les États-Unis puisque c'est au Brésil que nous allons poursuivre notre quête de nouveautés avec un album pas paru aujourd'hui mais vendredi dernier, ce sera le seul de cette sélection. Il est signé du groupe Eminence, un album qui s'intitule Dark Echoes. Alors si le groupe Eminence n'est pas forcément extrêmement très connu, enfin du moins chez nous, il est loin d'être un petit nouveau dans le paysage du métal puisque il existe quand même depuis 1995. Il est originaire de Belo Horizonte, et une ville qui a également vu naître une dizaine d'années plus tôt un certain groupe qui s'appelle Sepultura. Le son d'Eminence est d'ailleurs pas sans rappeler celui de ses grands frères, hein, puisque Eminence c'est un mélange entre thrash, death et groove metal, donc un mélange qui rappelle un peu Sepultura, mais aussi un peu le son de Machine Head. Voilà, on navigue un peu entre ces deux grosses influences. Depuis son premier album qui s'appelait Chaotic System en 99, Eminence a beaucoup tourné en Amérique du Sud, mais aussi en Europe. Et puis le combo brésilien a partagé la scène avec les plus grands groupes et a participé à beaucoup de festivals extrêmement prestigieux. Par exemple, il a fait deux fois le Rock in Rio. Donc je vous en cite qu'un, mais c'est quand même c'est pas rien de faire le Rock in Rio. Et malgré tout, et ben jusqu'à présent, enfin du moins jusqu'à récemment, c'est dans des sphères plutôt underground que le quatuor évoluait sans vraiment arriver à faire exploser sa renommée. Alors ça c'était avant, puisque le groupe qui a désormais 5 albums studio à son actif a fait vendredi dernier un retour assez marqué dans les bacs avec Dark Echoes, un album produit par le guitariste du groupe qui s'appelle Alan Wallace Baylow, puis qui a été mixé et masterisé par le producteur danois Tue Madsen, qui est connu pour son travail. Alors, je vais pas vous faire tout son CV parce que ce serait trop long, mais par exemple, il a travaillé avec Meshuggah, avec Eventual Burn ou encore avec Suicide Silence. Ça vous donne quand même quelques noms. Dark Echoes, c'est un album qui se compose de 10 titres solidement conçus à travers lesquels le combo aborde des thèmes aussi divers que la résistance au sectarisme, l'enthousiasme, la frustration, la persévérance. Moi, j'ai beaucoup apprécié le trash death direct, brutal, délivré par Eminence. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette production puissante, moderne. J'avoue que je connaissais pas du tout le groupe. Et puis, cet album, ben, ça a été une très belle surprise, une très belle découverte. Voici un extrait de Dark Echoes. Et justement, le titre qu'on écoute s'appelle également Dark Echoes. Et attention, c'est un featuring avec monsieur Björn Strid, éminent frontman du groupe Soilwork.
Esta nunca ha sido dictadura, señor. Está blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano. Porque tenemos que salvar primero el país.
Right, and then I see the disinfectant. It knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that? We'll be right back.
Vous écoutez l'émission Check Pilot sur Bike FM. À l'instant, c'était le titre Dark Echoes du groupe Eminence, qui a sorti vendredi dernier son 5e album, également intitulé Dark Echoes, album qui pourrait bien permettre au combo brésilien de sortir définitivement du circuit underground. Avant de passer à la rubrique Sortez Cover, qui, comme chaque vendredi, refermera cette émission, j'aimerais vous présenter une dernière nouveauté qui va faire le bonheur des amateurs de pure death. Il s'agit d'un disque signé des Polonais de Decapitated, qui regroupe des démos de leur début de carrière, des démos qui sont réunies donc dans cette compilation qui s'intitule The First Damned Demos. Alors pour les novices, Decapitated, c'est un groupe qui a été créé à la fin des années 90 autour du chanteur Soren et du guitariste Vogue, qui sont âgés à l'époque d'à peine une quinzaine d'années, je crois. À la fois brutal et technique, leur death a pour principale influence des formations américaines comme Cannibal Corpse, Suffocation, Decide, ou encore aussi, faut pas les oublier, leurs compatriotes de Vader. Le jeune combo va frapper très fort dès la sortie de son premier album qui s'appelle Wind of Creation. Nous sommes en 2000 et cet album va connaître un succès notable chez les amateurs de death. Avec son deuxième opus Nihility qui paraît en 2002, Decapitated va évoluer vers un death de plus en plus technique, mais propose surtout un disque beaucoup mieux produit qui va lui permettre de se forger une très belle renommée au sein de la scène death internationale. Alors à ce jour, la discographie de Decapitated, elle compte 7 albums studio. Le dernier en date, c'est le très réussi Anticult qui est paru en 2017. Et en attendant que le combo lui donne un successeur, eh bien voici un beau cadeau pour ses fans. Fans qui étaient nombreux d'ailleurs à réclamer depuis un bon moment que les premières démos de Decapitated soient disponibles dans des versions dignes de ce nom. Et puis surtout à un prix abordable, parce que voilà, c'était devenu totalement, enfin ça avait flambé quoi, on peut les trouver, mais c'était extrêmement compliqué. Donc ce vœu, il est désormais exaucé avec la sortie de The First Damned Demos, qui, il faut le signaler, est déjà paru une première fois hein, en l'an 2000, mais voilà, c'est exactement ce que je vous disais, il était devenu quasi introuvable. Le voici désormais dans son intégralité. Et ce qui est surprenant à l'écoute de ces démos, qui datent quand même de la fin des années 90, c'est que alors, le mixage de ces morceaux, faut que je commence par le début. Les morceaux, ils n'ont été ni remixés ni remasterisés, et finalement, bah, le mixage, il est carrément correct. J'ai trouvé que The First Damned Demos, c'était un disque qui finalement n'était pas dénué d'intérêt. Au départ, quand j'ai vu que c'était des vieilles démos qui ressortaient, je me suis dit, oh ouais, bof. Et puis, faut jamais rester sur ses a priori. À l'écoute, là, je me suis dit, ah ouais, finalement, à travers les titres que contient The First Damned Demos, eh ben, on entend déjà se profiler ce que va devenir Decapitated, à savoir un des fers de lance de la scène death internationale. Donc rien que pour ça, je vous conseille d'aller y jeter une oreille à ce First Damned Demos paru aujourd'hui. On va d'ailleurs en écouter un extrait. J'ai choisi le morceau Destiny, qui est paru à l'origine en 97 sur Cimeteral Gardens, qui était la toute première démo officielle du groupe. Voici tout de suite Decapitated sur Bike FM. We'll be right back. Destiny du groupe de Death Polonais Decapitated sur Bike FM. Vous écoutez l'émission Metal Check Me Load et vous pouvez retrouver le titre qu'on vient d'entendre sur la compilation The Four Damn Demos qui paraît aujourd'hui. Le titre Destiny en lui-même, initialement, il était sorti en 1997 sur la première démo officielle de Decapitated. Et on va s'arrêter là pour la sélection de nouveaux albums puisque j'ai dépassé le temps qui m'était imparti et il est grand temps de se dire au revoir avec la rubrique finale, la rubrique Sortez Cover. Aujourd'hui, on va écouter un tube pop-rock des années 80, brillamment revisité, dans un style à la croisée entre metalcore et deathcore. Le tube en question, c'est Listen to Your Heart de Roxette, et la version qu'on va écouter, elle est signée Another Kind. Et Another Kind, c'est en fait le side project de Vidik Ozog, qui est le guitariste du groupe de new metalcore moldave Infected Rain. D'ailleurs, la reprise de la chanson Listen to Your Heart, elle est interprétée par Lena Sisor-End, qui n'est autre que la chanteuse d'Infected Rain, et perso j'adore son interprétation qui alterne entre chant clair et growl, un petit peu à la Ginger. Sachez enfin que ce titre là il est tout récent puisqu'il a été révélé vendredi dernier. En ce qui concerne la version originale de Listen to Your Heart, qui est donc une ballade, absolument tout le monde la connaît, surtout depuis qu'elle a été utilisée pour la pub du fast-food le plus célèbre de la planète. Elle est signée du duo pop-rock suédois Roxette, un duo qui se composait de Marie Frederiksen, qui est décédée fin 2019, et de Per Gessle. Alors la chanson Listen to Your Heart, elle va paraître pour la première fois en 45 tours en 88, mais seulement en Suède. Elle va avoir un joli succès là-bas. Un mois plus tard, ça va être l'album Look Sharp qui paraît, dont elle est extraite, mais c'est lors de sa réédition, toujours en version single, là nous sommes en août 89, que la chanson va devenir un tube international. Elle va être numéro 1 des charts en Pologne, au Canada, aux États-Unis, en France elle va se hisser jusqu'à la 7e place du top 50. Aujourd'hui, Listen to Your Heart fait partie intégrante de la pop culture. On a d'ailleurs pu l'entendre dans plusieurs films et puis aussi pas mal de séries. Notamment, on l'a entendu dans Mr. Robot, dans les Goldberg, dans Killing Eve ou dans Cold Case. Voici donc Listen to Your Heart de Roxette qui est revue et corrigée version métal par Another Kind. Et puis nous, bah, si tout va bien, on va se donner rendez-vous vendredi prochain, même heure, même station. On va faire un nouveau tour d'horizon des sorties du moment. Je pense que je vous ferai un petit mix de sorties du 4 juin et puis de la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps de tout vous proposer aujourd'hui. Donc je pense que ça va être ça le programme. En attendant, eh bien, n'oubliez pas, stay metal, stay rock and roll. Salut à tous. Of heaven turns to dust.